Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette seconde semaine de découverte des films et musiques qui nous bercent durant les fêtes de fin d'année. Sur les 6 prochains jours, je vais vous livrer des anecdotes et présentations de films et de dessins animés que l'on aime regarder sous un plaid avec un chocolat chaud. Pour commencer cette série, rien de tel que de commencer avec un film dont la bande originale a été signée par l'un des plus grands compositeurs du 7e art, Hans Zimmer. Vous connaissez forcément son travail au travers de films internationalement connus comme Interstellar, Gladiator, Inception, Pirates des Caraïbes et de nombreux dessins animés comme Gang de requins ou Le Prince d'Égypte. De nombreuses histoires sont à raconter à leur sujet, mais aujourd'hui nous allons nous intéresser à un autre de ses classiques au casting 5 étoiles, The Holiday. Justement, pour parler des acteurs qui font vivre cette folle histoire d'échange de maison, l'histoire met en scène une productrice hollywoodienne richissime, incarnée par Cameron Diaz, et une chroniqueuse britannique réservée, Kate Winslet. Ça commence plutôt bien. Ces deux femmes, dont le quotidien est littéralement opposé, ont un point commun, elles vivent une rupture amoureuse difficile et souhaitent s'éloigner de leurs habitudes le temps des vacances de Noël. Cameron Diaz, dont le personnage se nomme Amanda, cherche le calme et la sérénité dans le Surrey, un comté du grand sud de Londres, et fait surtout la rencontre de Graham, incarné par le célèbre Jude Law. De son côté, Iris, le personnage de Kate Winslet, se sent dépassée par le luxe et le côté matu vu d'Hollywood, mais elle se lie d'amitié très vite avec le voisin, un vieil homme, ancien scénariste oscarisé du nom d'Arthur Abbott, et avec Miles, un compositeur de musique de film. Je vous laisse visionner ce beau long métrage, si ce n'est pas déjà fait, pour découvrir les péripéties qui ravira aussi bien la gente féminine que masculine. Passons aux anecdotes du tournage avec pour commencer des caméos inédits. Pour la définition, un caméo est un passage éclair dans le film d'un membre de l'équipe de tournage ou d'une célébrité qui n'est pas dans le casting. Les plus célèbres d'entre eux sont notamment ceux du créateur des super-héros de Marvel, Stan Lee, qui faisait une apparition dans chacun de ses films. Le personnage de Cameron Diaz étant productrice de bande-annonce, on peut voir au début du film quelques-unes de ses réalisations mettant en scène des acteurs comme Lindsay Lohan et James Franco. Un autre caméo se passe dans la séquence du vidéoclub où l'on peut apercevoir Dustin Hoffman dans son propre rôle, son apparition étant le fruit du hasard car l'acteur se baladait à proximité du tournage et a été invité de manière très spontanée. La spontanéité était aussi de mise de la part de la réalisatrice Nancy Meyers, qui privilégie l'authenticité et de ce fait, de nombreuses scènes sont improvisées, comme la danse d'Iris à son arrivée à Los Angeles et les dialogues dans cette fameuse séquence du vidéoclub. Enfin, malgré un physique plutôt athlétique, Cameron Diaz a confié dans le DVD bonus que le tournage a été pour elle l'un des plus physiques de sa carrière. Étonnant, non ? Quand on sait qu'elle a brillé dans des films d'action comme Charlie et ses drôles de dames ou Night and Day, mais à la fois pas tant que ça. En effet, on peut facilement imaginer que courir dans la neige avec des talons aiguilles et sauter de joie peut être éprouvant, surtout quand les scènes sont reprises plusieurs fois. Je vous laisse vous imprégner de ce chef-d'œuvre américain avec le morceau Maestro signé Hans Zimmer. Je vous retrouve juste après avec un dessin animé qui a bouleversé les codes à sa sortie en 2013. Thank you. Devenu le film d'animation le plus rentable du monde avec 1,28 milliard de dollars de chiffre d'affaires, détrôné par son propre second volet en 2019, je me devais de vous parler de La Reine des Neiges, notamment de sa bande originale et son histoire au retournement de situation digne d'un film hollywoodien. Le succès de ce dessin animé tient tant à la figure de la princesse Disney qui est déconstruite que ses chansons, dont la plus connue et la plus entêtante, Libérée, délivrée ou Let it go dans sa version originale. C'est cette même chanson, interprétée dans sa version française par Anaïs Delva, qui permettra au couple Robert Lopez et Kristen Anderson Lopez de remporter leur premier Oscar de la meilleure musique en 2014, succès qu'ils rencontreront à nouveau dans un autre Disney en 2018 avec le film Coco. Tous deux signent les chansons du film tandis que Christophe Beck signe les musiques. Devenu un incontournable et figure de proue de la période Renaissance Disney entamée par le film La Petite Sirène dès 89, La Reine des Neiges du titre original Frozen a donné du fil à retordre aux équipes Disney, beaucoup de fil à retordre. Tout commence en 1937, juste avant la sortie du classique Blanche-Neige et les Sept Nains, quand Walter Disney envisage de produire un long métrage sur la vie d'Hans Christian Andersen, romancier, dramaturge, conteur et poète danois, connu pour ses nouvelles et ses contes de fées, dont l'un s'intitule « La Reine des Neiges », publié en 1844. Petite anecdote à ce sujet d'ailleurs, malgré que cette histoire soit l'une des plus longues écrites par Andersen, il aura fallu seulement 5 jours pour en achever sa création. Revenons à Disney, qui met de côté son projet une première fois avant la Seconde Guerre mondiale, une seconde fois suite à La Petite Sirène, elle-même adaptée de l'écrivain danois. Une troisième tentative est entamée en 2000, mais coupera court en 2004, suite aux négociations avec les studios Pixar. Mais qu'à cela ne tienne, les studios sont rachetés 7,4 milliards de dollars en 2006. Quatrième session de travail entamée en 2008, qui veut donner une nouvelle définition du grand amour? Disney ayant déjà traité le baiser du prince charmant, annonce Chris Buck, co-réalisateur de Tarzan, et demandé sur le projet qui aura mis en tout 76 ans à voir le jour. Il faudra attendre le 22 décembre 2011 et le succès de Réponse pour connaître enfin une date de sortie finale. Ce sera le 27 novembre 2013. Vous allez vous demander à juste titre pourquoi il a été si difficile de finaliser ce projet. Tout réside principalement dans la construction des personnages, au début basés sur ceux d'Anderson, avec le personnage de la reine en version méchante. Les studios cherchant une version plus moderne des films qu'ils proposent, ils ont eu enfin l'idée qui changera la face de l'histoire. Les deux personnages principaux seront sœurs, une relation qui est rarement l'élément principal de l'intrigue des films d'animation américains, le seul étant Lilo et Stitch. Pour ce faire et être au plus proche de la réalité, les studios se lancent dans un grand questionnaire auprès de leurs employées féminines ayant grandi avec au moins une sœur. De nombreuses, très nombreuses modifications interviendront avant la version finale telle qu'on la connaît et on doit notamment des changements radicaux au couple Lopez, créateur des chansons dont je vous parlais au début. L'histoire sur ce film est dense, si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille de lire et écouter le podcast « À l'origine de la Reine des Neiges sur France Culture » de Derwel Kefelek. On se quitte pour aujourd'hui avec la musique qui ouvre ce chef-d'œuvre d'animation, Vueli, inspiré de la culture saami vivant entre autres en Norvège. Cet air est un mélange de joik, issu de traditions chamaniques et de l'hymne de Noël danois « Deili ei Johan » signifiant « Belle et la Terre ». Cette musique est l'une des rares qui n'est pas signée de la main de Christophe Beck, mais du compositeur norvégien Frode Fjellheim, et on écoute la version qu'il a inspirée, interprétée par un chœur norvégien 100% féminin qui s'appelle Cantus. Très bonne écoute à toutes et tous, je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau film et dessin animé de fête de fin d'année. On parlera ensemble du Père Noël est une ordure et du Petit Prince.